Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Réticence face aux vaccins, résistance face aux antibiotiques. Nos médicaments sont-ils malades? Depuis une semaine, l'automne est arrivé. La campagne de vaccination pour la grippe saisonnière a été lancée par le ministère de la Santé. Si Marisol Touraine, la ministre de la Santé, déclarait au début de l'année la vaccination, ça ne se discute pas. Tout en lançant une nouvelle plateforme de concertation citoyenne sur Internet, la France demeure pourtant l'un des pays du monde où la population reste la plus sceptique et méfiante sur la sûreté des vaccins. Alors pour en discuter, nous sommes en compagnie de François Chaste. Bonjour, vous êtes chef du service de pharmacie clinique à l'hôpital Necker. En face de vous, Patrick Zilberman. Bonjour, vous êtes professeur émérite de la chaire d'histoire de la santé à l'école des hautes études en santé publique. Tout d'abord, une précision, Patrick Zilberman. Évidemment, la question des vaccins ne se confond pas avec celle des antibiotiques.
Bonjour. Non, bien entendu, ce sont deux débats complètement différents. Le problème du vaccin est un problème très compliqué quand on le met face aux réactions de l'opinion. Le problème des antibiotiques est un problème qui relève non seulement, qui concerne non seulement l'opinion, qui certainement a tendance à réclamer trop d'antibiotiques, à ne pas suivre les traitements comme il faudrait, mais ça concerne aussi les prescripteurs. Et là, on est dans un autre univers.
Alors, parlons maintenant vaccins. On voit qu'il y a de plus en plus de réticences face aux vaccins. François Chaste, 4 Français sur 10 émettraient des doutes ou bien sur l'innocuité ou bien sur l'efficacité des vaccins. Qu'en pensez-vous ?
Bien, écoutez, effectivement, ces chiffres ont été publiés il y a quelques jours et nous sommes très étonnés de constater que la France, qui est le pays de Pasteur, a ce taux de scepticisme à l'égard des vaccins, 40%, alors que c'est de l'ordre de 12-13% au plan international. Alors, la question se pose, pourquoi ce scepticisme? Pourquoi ce doute? Alors, on a peut-être quelques explications avec la manière dont les pouvoirs publics ont bafouillé ces dernières décennies sur leur communication à l'égard des vaccins. Il y a eu l'affaire de la vaccination par l'hépatite B. Bernard Kouchner n'a pas été très brillant sur cette affaire. Roselyne Bachelot, pas formidable non plus sur la grippe H1N1. Et puis alors, il y a des polémiques incessantes, des serpents de mer sur l'aluminium, sur les adjuvants. Faut-il en avoir? Faut-il ne pas en avoir? Faut dire que c'est ces adjuvants qui sont un peu au cœur du débat. Eh bien, au fond, ça fait 80 ans qu'on les utilise et ils n'ont posé aucun problème jusqu'au moment où une équipe française a découvert une maladie que personne d'autre n'a observée au plan international et qui nous paraît aujourd'hui encore quelque chose d'extrêmement curieux.
Une maladie dont vous allez nous donner le nom parce que sinon je vais l'écorcher.
Oui, c'est la myofasciite à macrophages qui serait due, selon cette équipe du Val-de-Marne, due à l'aluminium qui est contenu dans les vaccins. Et l'aluminium, c'est très utile. Pourquoi est-ce utile? Parce que l'hydroxyde d'aluminium est une base essentielle pour que ces vaccins aient une action prolongée et que l'immunité qui naît de la vaccination soit fortement exprimé.
Mais alors justement, il y a eu une pétition récemment, une pétition qui a recueilli plus d'un million de signatures, ce qui est malgré tout beaucoup, une pétition sur Internet et qui réclamait par exemple qu'un vaccin pour enfants soit proposé avec une formule sans aluminium, bref, qu'il y ait la possibilité pour les parents d'avoir le choix en matière de vaccination. Et ça, c'est en tout cas en apparence une demande qui paraît parfaitement recevable. Pourquoi n'aurait-on pas le droit, François Chaste, de décider de s'injecter ou non un vaccin comportant de l'aluminium?
Ah ben, on peut demander à son pharmacien de l'aspirine sans aspirine ou du paracétamol sans paracétamol.
Est-ce que c'est la même chose?
Oui, absolument, parce que l'aluminium n'est pas là pour se faire plaisir. C'est pas pour augmenter le prix des vaccins. C'est pas pour tuer les petits bébés. L'aluminium est très important pour que le vaccin soit actif pendant 10 ans. Par exemple, la grippe, il n'y a pas d'aluminium dans le vaccin contre la grippe. Pourquoi il n'y a pas d'aluminium? Parce qu'on refait une vaccination tous les ans. On n'a pas besoin d'aluminium dans un vaccin dont on a besoin d'une nouvelle injection chaque année en raison de la modification du type viral auquel on doit être affronté. Et donc, si on a de l'aluminium dans les vaccins, c'est parce qu'il est indispensable pour la qualité vaccinale du médicament.
On va revenir à une scène originelle, celle de la vaccination contre la grippe A, la voix de la ministre de l'époque, Roselyne Bachelot.
C'est une opération de santé publique, l'opération de santé publique la plus importante qui a été menée depuis, depuis que la France existe. On n'a jamais, dans notre pays, fait une opération de vaccination qui concerne l'ensemble de la population, avec des difficultés logistiques considérables, le fait que les vaccins sont, livrés de façon échelonnée, le fait qu'ils sont livrés en flacons multidoses. On a eu les première file d'attente, samedi en 8, en une semaine, on a résolu nos problèmes. Attendez, et grâce à tous les gens qui se sont mobilisés.
Patrick Zilberman, pas sûr que cela ait été extraordinaire. On a l'impression que quelque chose a déraillé à cette époque.
Non, moi je suis plus modéré dans cette affaire. Je pense que le gouvernement de l'époque a commis de grosses erreurs, notamment en sous-estimant la nécessité absolue de communiquer avec le public, avec l'opinion, d'expliquer ce qu'on fait, etc. Je crois que la deuxième erreur a été de suivre une logique que j'appelle une logique de défense nationale, c'est-à-dire qu'on ouvre des gymnases et on vaccine en masse, alors que la vaccination aurait pu être effectuée par le médecin. Ça aurait été certainement beaucoup plus efficace parce qu'on sait, si vous voulez, que le médecin traitant est au centre de la décision de se faire vacciner chez nos concitoyens. La grippe H1N1 a été beaucoup moins virulente que prévu. C'était une pandémie. Une pandémie, c'est pas mesuré par la virulence, c'est autre chose.
C'est mesuré par quoi ?
Alors, c'est deux choses. Un, il faut que la souche en circulation soit totalement nouvelle, qu'elle n'ait jamais circulé dans la population humaine auparavant. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, il faut que la dissémination s'étende sur au moins deux régions définies par l'OMS. C'est tout ce que ça veut dire, une pandémie. Ça ne veut rien dire d'autre, hein. Donc, je pense que l'échec, parce qu'il faut quand même parler d'échec, de la campagne de vaccination de 2009 est un échec qui est dû à la négligence par rapport à la communication publique, négligence qui malheureusement est de règle.
Dans ce type d'affaires en France. En tout cas, ce sont vos propos, Patrick Zilberman. François Chaste, vous qui êtes chef du service de pharmacie clinique à l'hôpital Necker, est-ce que cet épisode de la grippe qui reste dans toutes les mémoires, donc cette fameuse grippe H1N1, est-ce que celle-ci a endommagé, selon vous, l'image de la vaccination en France ?
Oui, assurément. Il y a eu une forme de rupture de confiance entre le public et les pouvoirs publics. Alors, je pense que il y a eu une somme d'accidents dans l'histoire récente des vaccins, mais la grippe H1N1 a été vécue comme une menace un peu identique à la menace grippe espagnole de 1920.
Et grippe qui a tué 50 millions de personnes.
Oui, bien sûr, mais parce que personne n'était préparé. On avait à l'époque une grande difficulté à l'égard de la protection vis-à-vis des maladies infectieuses. On ne savait pas se laver les mains, on ne savait pas se moucher dans des mouchoirs en papier. Et il faut dire que la virulence de ce virus de 1920... 1919-1920 n'avait rien à voir avec la virulence de l'H1N1 de 2009-2010. Et là, il y a eu une double opacité de la part des pouvoirs publics. D'abord, les gymnases. Je pense qu'on a un réseau de santé en France qui était de nature à organiser une vaccination sans précipitation, sans affolement, et on aurait pu faire la vaccination dans de bonnes conditions. Et puis, il y a eu deux formes de vaccins. Les femmes enceintes, les personnes à risque avaient droit à des vaccins sans conservateur, les autres avec conservateur. Pourquoi ? On ne sait pas. On ne sait pas. Et aujourd'hui, le bilan, c'est que les conservateurs, qui sont en réalité des adjuvants de l'immunité, c'est-à-dire des éléments très précieux pour la qualité des vaccins, sont considérés comme des problème à risque pour les personnes qui se font vacciner, ce qui est faux. Il faut se faire vacciner aujourd'hui contre la grippe. On a en France des performances de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes à risque de moins de 50%, c'est inacceptable.
Moi, je rajouterais autre chose à propos donc de cet épisode de la grippe A en 2009. Je dirais qu'il y a eu un fort soupçon dans le public de collusion entre les politiques et les laboratoires, les médecins et les laboratoires, et du coup qu'un certain nombre de visions, je dirais, complotistes, on pourrait peut-être l'atténuer un peu, sont devenues extrêmement prégnantes à cette époque. Et là aussi, que répondez-vous ?
Bien sûr, il ne faut pas exclure que l'industrie du médicament n'ait pas été complètement étrangère à cette ambiance d'affolement. Et en particulier, un laboratoire suisse bien connu a organisé une forme de pénurie sur un médicament antiviral dont on aurait pu se passer et qui a fait l'objet de stocks stratégiques au niveau de la pharmacie centrale des armées qui sont aujourd'hui, avec le recul qu'on a...
Ce médicament, c'était le Tamiflu.
C'est toujours facile de regarder l'histoire avec une forme de sourire. En réalité, à l'époque, c'est difficile d'avoir le recul suffisant, mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Ces questions sont légitimes. Et comme on dit, peut-être les historiens auront la capacité de juger à partir des documents qui seront livrés à leur sagacité dans les archives gouvernementales.
Ça tombe bien, vous en avez un en face de vous d'historien, il s'appelle Patrick Zilberman. On voit du coup, depuis cet épisode de la grippe, que le public est de plus en plus sceptique sur des vaccins. Il y a des vaccins, par exemple, contre le papillomavirus, qui lui aussi suscite énormément de scepticisme, Patrick Zilberman. Là aussi, est-ce qu'on a tort d'être sceptique ?
Oui, bien sûr, on a tort d'être sceptique. La santé publique, c'est-à-dire la façon dont nous vivons aujourd'hui, repose sur deux jambes. Premièrement, l'hygiène publique, le fait que les eaux d'alimentation ne se mélangent plus avec l'évacuation des eaux usées, et donc plus de danger de contamination. Et puis deuxièmement, la vaccination. La vaccination, si vous voulez, est responsable de la disparition, de l'éradication de la variole. Elle est responsable pour au moins 10 pathologies d'une réduction du pourcentage de l'incidence à des niveaux infimes. Je citerai la diphtérie, par exemple, 99% de pourcentage de réduction, le tétanos, 98%, la poliomyélite, 100%, etc. Il y a une dizaine de maladies qui, par rapport auxquelles nous n'avons plus le moindre risque grâce à la vaccination. Prenez le tétanos, par exemple. Il y a encore quelques morts chaque année, mais il y a encore quelques morts parce que nous nous vaccinons mal. C'est un vaccin extrêmement efficace qui pourrait avoir totalement éliminé la maladie de nos sociétés. Donc la vaccination est essentiel à la manière dont on vit aujourd'hui.
Non mais là-dessus, pas de problème, mais pour les nouveaux vaccins, par exemple le Gardasil, qui est donc ce vaccin contre le papillomavirus...
Alors, le HPV, c'est un peu différent. D'abord, il s'agit de vacciner les très jeunes filles, à partir de 11 ans, pour une maladie sexuellement transmissible. Donc avant les premières expériences sexuelles et sur un domaine où les parents, évidemment, réagissent de manière, disons, un peu nerveuse, quoi.
François Chaste.
Ouais. Très clairement, la vaccination contre le HPV, le papillomavirus, n'est pas suffisante en France. La couverture vaccinale des jeunes filles de 16 ans est de l'ordre de 17%.
C'est ça.
Au Royaume-Uni, 85%. Et donc, on a... Alors, ce qui est formidable avec ce scepticisme à l'égard des vaccins, c'est que les Français, quand ils ont des vaccins disponibles, ne se font pas vacciner ou ne vaccinent pas leurs enfants. En revanche, quand les vaccins ne sont pas disponibles, ils se disent « Ah, quel dommage de ne pas avoir de vaccin contre le sida, contre Ebola ». Contre l'hépatite C. Ah, si on avait des vaccins. Alors, on ne comprend pas cette attitude qui consiste à ne pas se faire vacciner quand les vaccins sont disponibles et à attendre qu'il y ait des vaccins disponibles alors qu'ils ne le sont pas.
Mais c'est peut-être aussi de la faute des médecins ou
des
instances médicales.
De la faute des médecins.
Ah, ce sont les professionnels.
Bien
donc,
sûr.
Vous savez, souvent, ça peut être de la
faute
des journalistes.
Aussi des journalistes.
Aussi.
Ah, voilà. Nous sommes
voyez,
d'accord.
Nous nous retrouvons là-dessus. Non, il y a également quelque chose que l'on entend, c'est le risque de sclérose en plaques liée à un certain nombre de vaccinations, dont le Gardasil. Et là, quand je disais que ce pouvait être la faute des médecins, c'est-à-dire qu'à la fois, on dit il n'y a pas de lien, et puis dans la documentation que j'ai, on dit bah alors s'il y a peut-être 300 cas qui sont liés à la sclérose en plaques, parce que comme cela diminuerait les réponses immunitaires, eh bien on aurait la possibilité de concevoir. Alors, s'il n'y a pas de discours clair, il est normal que l'opinion publique ne puisse pas se faire une opinion claire, François Chasse.
Alors, les réponses médicales et de la recherche scientifique sont extrêmement claires. Il n'y a pas de risque majoré de sclérose en plaques. Il y a un discret risque majoré de 3 à 4 cas par million de vaccinés en matière de maladie de Guillain-Barré. Alors, pourquoi ? C'est une maladie neurologique, qui est heureusement réversible dans la quasi-totalité des cas, et qui est liée à une stimulation de l'immunité. Et le vaccin, c'est une stimulation de l'immunité. Mais les stimulations de l'immunité, mais tous les jours, nous rencontrons des antigènes. Nous respirons dans la nature, dans les forêts, dans les villes, dans les campagnes. Nous respirons des antigènes qui stimulent notre immunité. C'est pour ça que nous avons des phénomènes allergiques au printemps, que nous avons des rhumes en hiver. Et donc, il y a une stimulation de l'immunité, donc un risque, mais extrêmement discret. Et à côté de ça, l'éradication des maladies. Je voudrais donner un exemple. Souvent, on dit que toutes ces maladies, polio, diphtérie, tétanos, l'hygiène des familles aurait suffi à les éradiquer. Je vais donner un exemple qui prouve le contraire. Il n'y a plus un seul cas de rage animale en France depuis 2001. Pourquoi ? Parce que les services vétérinaires ont disséminé, en particulier dans les forêts de l'est de la France, des vaccins que les animaux avalent à l'insu de leur plein gré. Et donc, ces animaux sont vaccinés. Est-ce qu'on peut dire que les loups, les renards, les chiens ont une meilleure hygiène que dans les années 90 ? Bien sûr que non. Donc, la vaccination, ça marche. Les vaccins sont bons pour la santé.
Votre livre, François Chasse, Les médicaments sans question aux éditions Talendier, et celui de Patrick Zilberman, Tempête microbienne, essai sur la politique de sécurité sanitaire dans le monde transatlantique, c'est chez Gallimard. Merci à tous les deux.